Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile parce que le vent est tombé.
Rêveurs audacieux.
Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif.
Conspirateur positif.
Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie.
Et si demain n'était pas foutu?
Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons », le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Primavera de Filippi. Juriste, artiste, directrice de recherche au CNRS et chercheuse associée au Berkman Klein Center à l'Université d'Harvard, fondatrice de la Coalition Dynamique sur les technologies blockchain au sein du Forum international sur la gouvernance d'Internet, sa recherche porte sur les implications juridiques et politiques de la blockchain et des crypto-monnaies, sujet sur lesquels elle a écrit un Que sais-je en 2018. Bonjour Primavera.
Bonjour Mathieu.
Notre moment ensemble se divise en trois temps. Une conversation sur l'époque, une expérimentation que tu proposes pour hâter la métamorphose du monde, et enfin, un voyage dans le temps, en 2040. Une uchronie, mais dans le futur. Histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée. La confiance est le cœur de cette émission. Confiance que je porte vis-à-vis de celles et ceux que je reçois. Confiance dans l'avenir et dans notre capacité de le construire ensemble. La confiance est aussi au cœur d'un de tes sujets de prédilection, la blockchain. La désintermédiation des tiers de confiance par l'installation à leur place d'une longue chaîne de bonne volonté. Eh bien moi, Primavera, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi pour être toujours là où l'on ne t'attend pas. J'ai confiance en toi pour inventer des mots, M-O-T-S, et des concepts, et à travers eux, d'ouvrir des mondes et des univers. J'ai confiance en toi parce que tu es la preuve vivifiante qu'en faisant des pactes avec soi-même, l'impossible n'est souvent que temporaire. Sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors la première question que j'aime à poser à toutes celles et ceux qui me font le bonheur et l'honneur de venir ici, c'est comment tu ressens l'époque, Primavera ?
Je pense qu'on est dans une époque un petit peu de transition, c'est-à-dire qu'il y a un fort ressenti, je pense, de rechercher quelque chose, pas nécessairement de changer, mais presque de créer du renouveau. Et je pense qu'on est encore en recherche. Je pense qu'il y a un désir d'expérimentation, d'exploration, parce qu'on n'a pas encore vraiment trouvé cette voie que l'on cherche, tout en étant assez désespéré pour trouver cette nouvelle voie. Donc, je ressens une période vraiment de désir de tester des nouvelles choses pour comprendre un petit peu vers quoi on veut se focaliser.
Alors, tu penses qu'on recherche quelque chose de précis ou tu sens qu'on a juste envie de changer d'air?
Je pense qu'on cherche quelque chose de précis. Parce qu'on cherche presque une vocation, une direction. Non, je crois pas que c'est... Changer d'air, c'est un peu plutôt s'échapper d'une situation qu'on n'aime pas trop. Je pense qu'il y a vraiment un désir d'avoir besoin de voir, justement, avoir besoin de croire dans un futur souhaitable, évidemment, pour pouvoir vraiment s'impliquer.
Alors, depuis que je te connais, tu creuses plein de voies pour sentir les évolutions et les révolutions de notre société. Et il y en a une dans laquelle tu crois beaucoup. C'est la blockchain, la chaîne de blocs en français. Cette technologie informatique mondiale qui permet de stocker et de transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et surtout décentralisée. un immense registre de contes où chaque page est un bloc. Des individus tout autour du monde, appelés mineurs, se chargent de valider et de répertorier dans chaque bloc toutes les transactions ou les contrats passés. Une fois un bloc achevé, il ne peut subir aucune modification. Ainsi, la blockchain permet d'enfermer des données dans un réseau public tout en garantissant sa sécurité en se passant d'intermédiaires au quotidien. On peut ainsi échanger des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum sans avoir besoin de banque, transférer des titres sans avoir besoin de notaire, signer des smart contracts sans avoir besoin d'assurance, dater et sécuriser des œuvres si l'on est créatif et inventeur ou encore améliorer la traçabilité des denrées ou des médicaments. Et toi, cette nouvelle potentialité décentralisée, ça t'a donné l'envie d'en faire une expérience artistique, de recherche, histoire de voir comment demain pourrait s'esquisser à travers tes plantoïdes.
Les plantoïdes, c'était une tentative, ça l'est toujours, c'est une tentative d'illustrer et d'expliquer de façon peut-être un petit peu plus ludique et artistique quels sont les défis ou les problématiques juridiques qui sont soulevées par la blockchain, qui est donc un peu le cœur de ma recherche. Et donc, j'ai essayé de représenter cette notion donc d'organisation autonome décentralisée ou d'entité donc algorithmique sur la blockchain de façon artistique et de façon interactive. Et donc, l'idée avec la plantoïde, c'est la version végétale d'un Android. Donc, c'est quelque chose qui est relativement simple, mais ça reste une forme de vie. Donc, c'est ce que j'appelle une forme de vie fondée sur la blockchain et au lieu du carbone. Et donc, une plantoïde, c'est une créature mécanique dont le corps existe dans le monde physique sous la forme de sculptures mécaniques et électroniques. Et donc, ce sont des plantes, souvent des fleurs, mais ce sont des plantes qui sont créées avec des morceaux de chêne en métal. Et le but de la plantoïde, donc, c'est évidemment de se reproduire, comme toute autre forme de vie. Et donc, normalement, les plantes, elles ne sont pas toujours capables de se reproduire par elles-mêmes. Et elles ont besoin de l'aide des abeilles, des papillons, etc. Donc, il y a le processus de pollinisation. Les plantoïdes n'arrivent pas non plus à se reproduire tout à fait par elles-mêmes et elles ont besoin donc de l'aide de la part des humains ou de la part de n'importe qui peuvent lui fournir donc du capital. Donc elles se reproduisent grâce au processus de capitalisation. Et donc comment ça marche, c'est que donc il y a les gens qui apprécient la plantoïde vont pouvoir la financer. Et donc, on peut alimenter ces plantoïdes avec des crypto-monnaies. Et donc, la plantoïde va accumuler des ressources pour assurer donc sa propre survie. Et à un certain moment, donc, la plantoïde va se rendre compte qu'elle a collecté suffisamment de fonds pour pouvoir se reproduire. Et donc, ça va activer le smart contract, donc le logiciel sur la blockchain qui représente un peu l'esprit ou l'âme de la plantoïde. Et donc, la plantoïde va lancer un appel d'offres pour permettre donc à n'importe qui, des artistes, des designers, de soumettre des propositions sur comment est-ce qu'ils envisagent de produire ou de créer la prochaine version de cette plantoïde. Et donc, les personnes qui ont financé la plantoïde vont pouvoir ensuite s'exprimer, vont pouvoir voter sur les propositions qui leur plaisent le plus. Et leur vote est pondéré par la quantité d'argent qu'ils ont fourni à la plantoïde. Et donc, éventuellement, la plantoïde va identifier une proposition gagnante et automatiquement, elle va transférer cet argent à l'auteur de cette proposition qui va donc être embauché par la plantoïde pour créer une nouvelle version d'elle-même. Et donc, d'un point de vue juridique, ça pose des questions très intéressantes. Premièrement, dans la mesure où, déjà, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on envoie des crypto-monnaies à la plantoïde ? À qui est-ce qu'on envoie vraiment cet argent, puisque la plantoïde n'a pas de personnalité juridique ? Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est embauché par une plantoïde ? Est-ce qu'il y a vraiment un contrat qui existe alors que la planterie n'a pas de capacité juridique. Qu'est-ce qui se passe si un des artistes qui a été embauché ne remplirait pas les conditions du contrat? Qui a le droit de recours? Qui peut porter en cause cet artiste? Et puis après, il y a toute la question autour donc de la question du droit d'auteur ou la question de l'artiste, c'est-à-dire que ça modifie un petit peu la donne où habituellement on va financer des artistes et on espère que ces artistes vont continuer à créer des œuvres qui nous plaisent. Alors que là, grâce donc à la blockchain, on a la possibilité de financer l'œuvre d'art directement. Et c'est l'œuvre d'art avec son système de gouvernance qui va accumuler l'argent et qui va utiliser cet argent pour aller embaucher d'autres artistes, pas toujours les mêmes, qui vont donc s'assurer de la longévité et de la reproductibilité de ces œuvres.
Alors, en plus que de voir apparaître et disparaître des lignées esthétiques, moi, ce qui me bouleverse dans cette expérience, c'est que c'est de la prospective opérative, c'est du design fiction, mais pour de vrai, qui existe déjà et qui augure de peut-être ce que sera l'avenir. Imaginez, pour l'instant, on prend des véhicules, des taxis conduits par des humains. Bien, bientôt, on pourra peut-être prendre des taxis autonomes qui n'auront plus d'humains pour les conduire. Et peut-être que ces taxis autonomes, à la manière d'une plantoïde, pourraient justement récupérer l'argent de la course qu'on lui donnera de toute façon pour demander au garagiste de changer qui d'une roue, qui d'un pare-choc, peut-être même pour assurer lui-même sa propre descendance. Et puis, peut-être on pourrait imaginer que des forêts entières pourraient être elles-mêmes dotées de cette nouvelle entité, de cette nouvelle âme numérique. On pourrait peut-être financer des forêts qu'on veut préserver, et les forêts se sentant peut-être menacées, de demander à des bûcherons d'anticiper d'une partie, justement, de la génération d'après. C'est à la fois vertigineux et à la fois tellement là, grâce aux plantoïdes. Merci beaucoup d'expérimenter pour nous une partie de ce que peut-être demain sera. Alors, je sais que tu expérimentes autre chose, et en ce moment, c'est le métavers qui fait tant parler. Tu nous en parles depuis un certain temps. Le 28 octobre 2021, Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, a annoncé le changement de nom de Facebook, désormais baptisé Meta, et expliqué le pourquoi de l'ambition. Nous avons choisi, dit-il, le nom de Meta, qui peut aussi signifier « au-delà ». Le prochain chapitre qui s'écrit est un futur construit par chacun d'entre nous qui nous amènera encore plus loin dans les connexions digitales qui sont possibles aujourd'hui, au-delà des contraintes des écrans, de la limite géographique et même de la présence physique. Se sentir réellement présent aux côtés d'une autre personne est le rêve ultime de la technologie des réseaux sociaux. Dans le métaverse, vous serez capable de faire presque tout ce que vous imaginez. Être entouré des amis et de la famille, travailler, apprendre, jouer, acheter et créer, écrit-il encore sur Facebook, avant d'ajouter « Dans le futur, vous serez capable de vous téléporter instantanément sous forme d'hologramme à votre bureau sans vous déplacer. Vous pourrez assister à un concert avec des amis ou faire irruption dans le salon de vos parents pour prendre de leurs nouvelles. » En quoi ça te paraît une bonne nouvelle, Primavera?
Je pense qu'il y a une... Tout ce qui est dit, c'est pas tout à fait révolutionnaire dans la mesure où on fait déjà ça de façon un petit peu moins immersive avec l'Internet. Mais il y a vraiment une qualité différente lorsqu'on parle du métavers. Et c'est justement cette possibilité de réintroduire la notion d'espace qui avait disparu avec l'Internet. Donc on appelle ça le cyberespace, mais en fait, la notion de spatialité n'existe pas sur l'Internet. Et donc, on ne peut pas trop se déplacer, on peut se connecter et se déconnecter, mais on ne peut pas se situer quelque part, on ne peut pas justement se télétransporter, puisque la notion de transportation n'a pas de sens dans le monde virtuel de l'Internet. Et donc, le métavers réintroduit cette notion de spatialité. Et donc, ça veut dire que tout d'un coup, on peut se déplacer, on peut se situer, et surtout, on peut situer les autres dans l'espace. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, on commence à ressentir la présence des autres dans notre entourage. Ce qui est beaucoup plus difficile lorsqu'on se connecte sur une call sur Zoom et en fait, on ne voit que des têtes sur des écrans, mais on ne comprend pas comment est-ce qu'ils se situent par rapport à notre propre localité. Et donc le métavers réintroduit ça et c'est assez révolutionnaire, aussi bien parce que justement ça veut dire qu'on peut ressentir cette présence beaucoup plus facilement, on peut situer les avatars les uns avec les autres, mais aussi parce que justement ça recrée des éléments de spatialité aussi par rapport au terrain, par rapport aux objets, etc. Et donc en fait on peut recréer une forme de société et de vie économique aussi au sein de ce métavers qui va comprendre ces notions de spatialité. Et donc on remarque déjà notamment l'existence de ces terrains virtuels qui commencent à coûter plusieurs millions de dollars et que justement différents terrains vont avoir différentes valeurs selon de leur centralité. Dans une ville virtuelle, les terrains qui sont proches d'une route vont avoir plus de valeur que ceux qui sont éloignés. Et donc tout d'un coup, on remarque que effectivement, l'introduction de cette notion d'espace dans le numérique permet des nouvelles formes d'interaction et des nouvelles formes d'interaction aussi bien sociales que économiques qui n'étaient pas possibles avec l'Internet auparavant.
Alors, on s'y est déjà essayé à imaginer des mondes, déjà dans nos têtes, dans les romans. Au début des années 2000, avec Second Life, on avait commencé avec des avatars, essayer d'avoir une vie, non pas par procuration, mais en tout cas, on avait une interface qui nous permettait de vivre des choses avec d'autres interfaces. Il y a quelque chose qui avait été coupé dans l'œuf avec l'arrivée de Facebook au même moment, qui avait un peu tué Second Life, puisque l'interactivité avec l'autre, d'où qu'il soit, était possible via Facebook. Pourquoi on parle de métavers autant avec d'appétit en ce moment, particulièrement à la Silicon Valley, c'est que c'est peut-être le bon moment parce que le taux d'équipement informatique a jamais été aussi grand, 90% de gens connectés en Europe et aux États-Unis, que les crypto-monnaies dont tu parlais, les bitcoins, l'Ethereum, commencent à être non pas un usage habituel, mais un usage... Il n'est plus marginal, en tout cas, d'utiliser des bitcoins aujourd'hui. Construire un métaverse, c'est peut-être plus facile aussi grâce aux infrastructures, puisque des milliards sont injectés dans ce nuage, le cloud, et puis la 5G arrivant, la rapidité va compléter tout ça. Et puis, les acheteurs de demain sont peut-être les joueurs en ligne d'aujourd'hui, et qu'on le veuille ou non, les jeux vidéo, l'économie du jeu vidéo, eh bien, elle génère deux fois plus de revenus que ceux du cinéma. Peut-être que la pandémie de Covid et son confinement nous ont invités à d'autres voyages, des voyages immobiles, des voyages intérieurs pour certains et des voyages extérieurs grâce, justement, au métavers au-delà des univers. Alors, tout ça, c'est des recherches de transcendance, des recherches de dépassement, des recherches de nouveautés. Mais avant toutes ces potentialités numériques d'avenir, toi, tu as trouvé les moyens d'une augmentation low-tech en choisissant un terrain d'expérimentation ancien, soi-même.
Sur le métavers, on est tous en train d'essayer d'expérimenter avec des nouveaux avatars pour essayer d'être quelque chose que l'on n'est pas ou quelque chose que l'on n'est pas encore. Et donc, on n'a pas vraiment besoin du métavers pour faire ces expérimentations. On peut très bien expérimenter ça dans le monde réel. Et donc, moi, j'ai un petit peu expérimenté avec ça en essayant d'identifier justement qu'est-ce que je ne suis pas encore, mais qu'est-ce que j'aimerais bien être. Et d'essayer donc d'identifier des exercices journaliers chaque mois qui me permettent de m'approcher de plus en plus de cette chose que je ne suis pas encore mais que j'aimerais bien être.
Alors depuis que tu as décidé de faire des pactes avec toi-même tous les mois, et c'était il y a longtemps, il y a 12 ans déjà, il y en a plein moi qui me surprennent, qui m'étonnent, qui m'inspirent, notamment celui où tu as décidé de faire exactement l'opposé de ce que l'on attendait de toi.
De ce que l'on me demandait de faire. Et donc oui, bah, c'est une expérimentation assez intéressante parce que c'est des fois j'ai très envie de faire ce qu'on me demande de faire, mais je ne pouvais plus le faire. Et ça oblige d'être créatif parce que ça oblige en fait de... Qu'est-ce que c'est l'opposé de ce qu'on me demande ? Il y a plein d'opposés, donc ça reste à moi de choisir c'est quoi l'opposé que je considère. C'est aussi une façon de justement d'apprendre à dire non d'une certaine façon, mais dire non de façon créative, d'apprendre à gérer cette interaction où une personne te demande de faire quelque chose et t'aimerais bien faire ce service, mais tu peux pas dire que tu ne peux pas. Et donc, faut trouver cette façon créative de faire quelque chose d'autre, mais tout en rendant quand même la personne contente. C'est assez intéressant, ça m'a appris beaucoup au niveau justement de cette explorer cette interaction interpersonnelle. Et je me suis rendu compte qu'avec ce pacte, je me suis retrouvée à souvent faire des choses avant qu'on me les demande, pour pas devoir faire l'opposé de ce qu'on me demande. donc c'est très souvent dans ces packs, je m'attends à apprendre quelque chose, mais en fait j'apprends des leçons collatérales tout aussi intéressantes.
Alors s'il était possible de quantifier le bénéfice de transcender l'impossible, quelles sont les expériences, toi, qui t'ont finalement le plus apporté?
Ben, moi, peut-être la première, c'était celle où j'ai vraiment découvert que l'impossible est temporaire, hein, et que l'impossible est dans notre tête. Et c'était en fait la première, c'était tout simplement de faire du Bikram yoga tous les jours, hein, donc tous les jours à 6 heures du mat. C'était vraiment de voir comment... Le premier jour, je pensais que c'était impossible. Je regardais les autres, je disais, c'est pas possible. Enfin, mon corps ne peut pas faire ça. Et en juste l'espace de un mois, de voir qu'en fait, j'étais devenue meilleure que les autres parce que je le faisais tous les jours. C'est là où je me suis dit, c'est assez incroyable. J'y aurais jamais cru. Et donc, j'ai été tentée de tester d'autres choses. Et donc, au début, c'était surtout des choses plutôt pratiques, physique, pour vraiment tester la flexibilité et la malléabilité du corps. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser plus aux questions sociales. Et donc, j'ai eu pas mal de thèses. Donc, par exemple, j'avais un mois où je ne pouvais pas dépenser d'argent. Donc là, ça a l'air impossible aussi. Et en fait, c'est tout à fait faisable. Évidemment, ça demande énormément de créativité. Mais c'est très intéressant de se rendre compte qu'en fait, l'argent n'est pas nécessaire fondamentalement. Bon, évidemment, j'avais quand même mon appart et tout ça, donc c'était plus ne pas dépenser d'un point de vue journalier. Et après, justement, pour tester, j'ai fait, OK, on va tester, est-ce que c'est possible de faire de l'argent tous les jours d'une façon différente? Donc, pour explorer toutes les modalités qui existent. Des autres qui étaient assez intéressants, qui m'ont quand même beaucoup aidé à évoluer, c'était notamment donc j'ai beaucoup aimé le pacte du rejet, c'est-à-dire de désespérément trouver quelque chose tous les jours que je veux, que je voudrais obtenir, et m'assurer que je ne l'obtiens pas et qu'on rejette ma demande. C'était assez intéressant parce que au début, c'est pas très confortable. Et donc, je sentais que j'étais un petit peu mal à l'aise à chaque fois que j'allais demander quelque chose en sachant ou en espérant d'être rejetée par rapport à ça. Et après 30 jours d'avoir fait ces expérimentations, je suis devenue relativement tellement confiante à l'idée d'avoir ce rejet que je suis devenue aussi extrêmement bonne à poser mes demandes. Et je me suis rendu compte que plus le temps passe... plus j'avais du mal à me faire rejeter. Tout simplement parce que j'étais tellement confiante dans la façon dont je demandais. Ça m'a vraiment fait découvrir que c'est juste une façon de... Quelle est l'image que l'on envoie lorsqu'on fait une demande. Et les gens, lorsque tu leur demandes quelque chose de façon tellement confiante... comme si c'est évident qu'ils devraient te dire oui, en fait, ils te disent oui. Et donc, à la fin du mois, j'avais du mal à me faire rejeter. Je devais vraiment aller chercher des choses très, très, très absurdes. Et même quand plus c'est absurde, plus les gens ne comprennent pas pourquoi tu demandes et donc ils te le donnent quand même. Donc, c'était assez intéressant. Et depuis, je pense que maintenant, j'ai une forme de familiarité et de bien-être avec le rejet. Et ça, c'était complètement grâce à ce pacte. Ensuite, j'ai d'autres pactes qui m'ont beaucoup plu. C'était, j'avais fait un pacte où donc, tous les jours, je devais aider quelqu'un. C'était assez intéressant parce qu'au début, c'est difficile de... C'est pas difficile d'aider, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'une personne veut qu'on l'aide avec. Donc, ça demande beaucoup de réflexion et d'analyse et d'empathie vers les gens. Et donc, évidemment, ça m'a rapprochée de beaucoup de personnes. Mais le truc le plus intéressant, c'est le pas que j'ai fait tout de suite après, qui était en fait de demander de l'aide. Donc déjà, c'est pas facile parce que faut savoir de quoi on a besoin, de quoi j'ai besoin d'aide. Donc ça demande un petit travail introspectif que souvent on ne fait pas parce que on pense qu'on n'a pas besoin d'aide. Et surtout la découverte qu'en fait les gens préfèrent mille fois qu'on leur demande de l'aide plutôt qu'on leur en offre. Ça les fait plaisir qu'on leur offre de l'aide, mais quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, c'est vraiment une preuve de confiance. Et donc là, je me suis vraiment extrêmement rapprochée des gens parce que je leur demandais de l'aide. C'est des pactes, mais c'est jamais des mensonges. C'est toujours, il y a toujours un élément de vérité dans ces pactes. Sinon ça marche pas aussi bien. Donc c'était assez intéressant de voir et de découvrir, alors que je m'y attendais pas du tout, que les gens ont une envie folle d'aider et que ça les fait sentir tellement bien lorsqu'on leur donne cette possibilité. Donc ça m'a fait pas mal grandir. Après j'en ai eu des trucs assez sociaux d'interaction, donc d'essayer de demander à des gens, aussi bien des gens que je connais ou pas, de me dire un secret. Et donc ça m'a demandé beaucoup de travail parce qu'au début c'était tellement bizarre et les gens ils étaient un peu qu'est-ce qu'elle veut. Et à la fin j'étais devenue tellement bonne, je savais exactement comment, j'ai trouvé les différentes techniques en me trompant plein de fois, mais à la fin du mois j'étais extrêmement capable de n'importe qui, je peux ils vont me donner un secret.
Alors à chaque fois qu'on se croise, maintenant que moi je te connais, j'essaie de trouver quel est le pacte du moment. C'est vrai que la dernière fois, quand je t'ai vu arriver en perfecto rose, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'esthétique extérieure.
Ouais, donc j'ai fait ce pacte qui était assez intéressant. Donc c'était le pacte qui s'appelle la générosité esthétique. Et c'est l'idée donc de chaque jour réfléchir à quel est le message que je veux communiquer. Et essayer de communiquer ce message avec la façon dont je m'habille. Et donc, évidemment, il y a toujours un peu quelque chose de qui flash un petit peu, puisqu'il y a un message qui doit passer. C'était très intéressant parce que c'était un peu aussi la première fois où vraiment j'ai expérimenté avec le style. Et c'est intéressant de se rendre compte, puisque effectivement, la plupart des communications que l'on fait avec les personnes que l'on connaît pas, c'est grâce à notre look. Et donc, vraiment, de pouvoir explorer les différentes interactions qui sont rendues possibles grâce, ou impossibles, hein, grâce à un look particulier. Et donc, tous les jours, je réfléchissais, qu'est-ce que c'est que je veux incarner? Donc, ça revient un petit peu à l'idée du métavers, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas des avatars qui peuvent tout nous changer. Mais en fin de compte, si, on peut complètement modifier la personnalité que l'on va communiquer avec nos habits. Et donc, vraiment, l'idée de générosité esthétique, c'est de ne pas réfléchir à pourquoi est-ce que je m'habille d'une certaine façon parce que j'ai envie d'être cool. Mais c'est vraiment, c'est un cadeau. C'est qu'est-ce que je veux offrir aux personnes qui vont me croiser? Comment est-ce que je peux les faire sourire ou comment est-ce que je peux leur faire remarquer des choses que peut-être qu'ils n'auraient pas remarqué autrement. Et c'était assez fascinant de voir comment justement, d'un jour à l'autre, en tout simplement changeant d'habit, les interactions qui sont générées sont complètement différentes. Et donc ça crée vraiment une base sur laquelle ensuite il va falloir construire. Donc si je m'habille d'une certaine façon, il y aura des préjugés, des préconstructions, et donc je vais devoir me battre contre ces préconstructions ou au contraire les accompagner. Et donc, c'est intéressant d'aller justement vers ces extrêmes vestimentaires, aussi bien parce que c'est un cadeau ça reste un cadeau, enfin, c'est une surprise pour les gens, mais aussi parce que ça va m'obliger à moduler en conséquent. J'ai découvert pas mal de choses et il y a plusieurs éléments que j'ai décidé de garder. Parce que effectivement, je trouve que c'est très intéressant de réfléchir par le look à quels sont les messages sous-jacents que l'on communique constamment.
Alors, parmi les pactes qui m'ont intrigué, ceux de 2015, de qu'est-ce que ça fait d'avoir un plaisir coupable tous les jours, de décider d'avoir un plaisir coupable tous les jours, et qu'est-ce que ça fait d'être à 200%, moi qui croyais que tu étais déjà à ce régime-là.
Alors, 200%, c'est très intéressant, puisque non, je ne suis pas tout le temps. Alors que là, je l'étais tout le temps. Et 200%, ça ne veut pas nécessairement dire d'être plus rapide ou plus productif. Ça veut dire vraiment d'être à fond. Dans tout ce que tu fais, tu es à fond dedans. Et notamment, bah, tu dois faire quelque chose que tu n'aimes pas trop faire. Tu le fais à fond. Et c'était un fact très intéressant parce que j'ai découvert qu'en fait, tout ce que tu veux ou tu ne veux pas le faire, si tu décides de le faire à fond, en fait, t'as ce niveau méta où en fait, ça devient fun de le faire parce que t'es en train de le faire à fond. Et donc, tu peux transformer toute activité un petit peu routine, mondaine, pas très amusante, ça devient passionnant parce que tu le fais à 200%. Et donc, tu peux vraiment te mettre à nettoyer et tu le fais à 200% et ça devient enthousiasmant. Tu peux faire des trucs logistiques que tu n'aimes pas du tout faire, tu les fais à 200% et tout d'un coup, tu te rends compte que c'est juste un état d'esprit. Et en fait, c'est tout aussi fun que faire des choses que tu aimes bien faire. C'est juste que les choses que tu aimes bien faire, par défaut, tu les fais à 200% parce que ça t'amuse. Et les choses que tu n'aimes pas faire, tu les fais à 50% et donc c'est pas fun. Et donc 200%, ça veut dire que pour n'importe quoi que tu fais, tu te mets à 100% d'enthousiasme et 200% d'effort. C'est assez intense, j'avoue, c'était un mois assez intense. Et surtout, donc je ne dis pas aux autres que je suis à 200%, mais les gens remarquaient. Les gens, ils me demandaient, mais d'où tu as toute cette énergie? Bah, c'est les pactes, quoi.
Alors, il est peu dire que tu questionnes les cadres et les conventions. Et puis, à un moment donné, tu as eu envie de questionner une forme d'évidence. Pourquoi une semaine, ça a 7 jours? Pourquoi une journée, ça a 24 heures? Et toi, tu as décidé d'avoir des journées de 28 heures, ce qui a réduit ta semaine de 7 à 6 jours.
Oui, donc ça, c'était une expérimentation aussi pour essayer de mettre en lumière l'arbitraire du temps tel qu'on l'a... Bah, tous les jours, en fait, tu dors le même nombre d'heures, sauf que t'as seulement 6 jours, donc t'as plus d'heures dans la journée d'éveil. Et évidemment, donc ça bascule un peu tout, parce qu'au début, tu vas te réveiller à 9 heures du mat. Mais le jour d'après, tu te réveilles un petit peu plus tard, un peu plus tard. Il y a des jours où tu te réveilles à 4 heures de l'après-midi et tu vas te coucher à 9 heures du mat. Et en fait, ça oblige encore une fois à moduler ta vie autour de ce nouveau fuseau horaire, si on veut. Et en fait, c'est tout à fait gérable. Et c'est presque très productif d'une certaine façon, puisqu'en fait, tu gagnes quand même une journée. et bien sûr, il faut prévoir un petit peu les choses à l'avance, parce qu'il ne faut pas que tu aies des meetings en plein milieu de ta nuit, quand les autres sont au travail. Mais ça donne aussi beaucoup de liberté. Et ça t'apprend que, d'une certaine façon, tu peux vraiment choisir. Comment est-ce que tu veux vivre ta vie et quand est-ce que tu décides de dormir et quand est-ce que tu veux être réveillé? Et d'une certaine façon, tu vas moduler tes rendez-vous selon de ton propre planning et non pas selon du planning que les autres ou que la société a décidé que c'est le bon horaire pour se lever, pour manger et pour aller se coucher.
Alors, j'ai vu qu'à mon invitation, tu avais fait un pacte pendant un mois, plutôt que de t'offrir des biens. Tu t'es offert des moments.
Oui, donc ça, c'était... Bah, merci pour cette suggestion, c'était très intéressant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que j'ai appris pas mal de ça, parce que c'est quelque chose que j'oublie souvent de faire. C'est vraiment de, chaque jour, de réfléchir, mais quel est un moment que je veux vraiment prendre à cœur et que je veux me souvenir et que je veux vraiment ressentir aujourd'hui. Et en fait, ça rend la journée beaucoup plus belle. Et à un moment, j'ai commencé à m'offrir plein de moments par jour. et j'ai toujours utilisé j'ai utilisé le langage. Donc souvent, je proposais à des amis ou à des collègues, est-ce que tu veux pas prendre ce moment ensemble. Tu vois. Et des fois, je leur proposais même de... Je leur offrais un moment à eux. Mais en fait, c'était un moment pour moi aussi. Et je trouve qu'utiliser ce langage de « est-ce que tu veux prendre un moment ? Est-ce que tu veux m'offrir ce moment ?» Ça change parce que ça donne une valeur à ces moments qui seraient autrement des moments tout à fait pas normaux, mais qui seraient non perçus comme étant tellement spéciaux. Et le fait d'utiliser le vocabulaire autour de ça, ça permet aussi bien pour toi que pour les autres de donner beaucoup plus d'attention et de valeur à ces instants. Et donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, m'est resté. Donc, beaucoup de ces pactes, c'est des tests, c'est des expérimentations, mais qui souvent, petit à petit, elles s'incarnent. Et après, tu n'as plus besoin que ce soit un pacte parce qu'en fait, tu as appris, tu as acquéri cette nouvelle capacité que tu n'avais pas lorsque tu as commencé le pacte. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui m'est resté. Donc, merci beaucoup parce que c'est une très bonne capacité que j'ai acquérie. Et que j'essaye aussi d'offrir encore aux autres.
Un cadeau de temps. Ça tombe bien parce qu'un cadeau en français, ça s'appelle un présent. Merci Primavera.
Merci à toi Mathieu.
Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps. Et de dépasser le temps d'une expérience de pensée, le « c'est impossible » par « c'est fait » et voilà ce que ça a changé. Quand un papillon rencontre un panda roux, génial de te retrouver Primavera dans ce monde de 2040 où le métavers rend possible tant de choses. Rester sur Terre mais toujours poussé par ce besoin d'explorer, l'humanité vit désormais dans un monde augmenté, embarqué dans ce métavers, univers totalement immersif où l'on choisit son identité comme on sélectionnait autrefois ses vêtements. Je te retrouve sur cette agora animée au cœur de Decentraland, bruissant du trafic de tout ce qui vole, marche ou se téléporte, et dont la spatialité mixte mélange les tonalités d'une Toscane lascive de fin d'été avec celle phosphorescente de ces nouvelles forêts de plantoïdes. L'extitude des futurs souhaitables y est présente, avec son agora delphique et gratuite, qui accueille tous les soirs des conversations étonnantes, de celles que l'on rêvait autrefois d'écouter. Rien que pour cette fin de semaine, Pierre Desproges, Hildegarde Bingen et Beaumarchais sur « Peut-on rire de tout aujourd'hui ?» ou encore Louise Michel et Jules Vallès sur ce que la Commune de Paris peut apporter au métavers. Comme à chacune de nos retrouvailles, je me suis posé la question de ce que serait ton avatar. Te voilà donc papillon aujourd'hui, avec un perfecto rose de surcroît. De mon côté, j'ai opté pour être un panda roux au chapeau d'Indiana Jones, soyeux et doux. Qui aurait dit que nous puissions ainsi vivre quotidiennement, mixant nos réalités, dans un monde où les concepts de genre, d'identité comme d'image ont profondément muté? Je me souviens de nos discussions. C'était au début des années 20, je crois. Tu expérimentais déjà depuis plus de 12 ans une augmentation low-tech qui consistait à faire des pactes avec toi-même. Le temps d'un mois, de ces fameux 21 jours et un peu plus pour changer, tu décidais de faire exactement le contraire de ce qui t'était demandé, de dire toujours la vérité ou un autre mois de mentir une fois par jour, de prendre des douches systématiquement froides ou encore de transformer une journée de 24 heures en une journée de 28 heures, réduisant par là même la semaine de 7 à 6 jours. D'apprendre chaque jour quelque chose de nouveau ou encore de dire chaque jour à quelqu'un que tu aimes, que tu l'aimes. Petit à petit, ton expérimentation sur toi-même a donné envie. Et nombreux sont celles et ceux qui ont commencé à se hacker eux-mêmes, s'émancipant de leur propre chaîne, regardant autrement et plus loin, augmentant leurs capacités, s'affranchissant de ce qu'ils pensaient être chaque jour impensable. Le métavers n'a finalement qu'accentué cette dynamique, permettant de générer de nouvelles formes de collaboration, d'interaction, d'interconnexion plus institutionnelles, loin de nos cadres devenus encombrants, tels de vulgaires échafaudages désormais inutiles. Nos enfants ont été les premiers à s'engouffrer dans cette terra incognita, puisqu'il s'agissait de s'augmenter sans l'aide de rien ni de personne. Rejetant la transmission de savoirs descendants, ils se sont entre-éduqués, mettant en place du mutual learning, comme de l'apprentissage plus inductif. Les parents n'ont pas tardé à leur emboîter le pas, sage, en profitant pour y réaliser leur rêve d'enfant. Durable, ouvert, immersif, le métavers a aussi étonnamment permis que soit améliorée la crise de la consommation des ressources physiques. En effet, à l'heure du virtuel et de l'augmenté, si la futilité n'a pas disparu, plus besoin en revanche de tous ces biens physiques jetables, à l'obsolescence bien trop programmée. Comme tu l'augurais avec l'expérience de tes plantoïdes, ces créatures mécaniques, androïdes, végétaux devenus réalité de notre environnement, les machines et les objets sont devenus autonomes. Grâce à l'holochain, ils récoltent des richesses à la hauteur de ce qu'ils nous apportent et les utilisent à dessein, permettant de donner naissance aux générations suivantes. Encore une invitation à reconsidérer notre place. Un joli prétexte, comme le confiait il n'y a pas si longtemps Karine Safa sur un arbre perché, à nous interroger sur qu'est-ce que l'humain et quel est le sens de sa présence sur Terre. Eh bien moi, pour tenter de percer ce mystère, j'ai le projet de me lancer un nouveau pacte, dont j'ai l'envie depuis bien longtemps, celui de me glisser dans ta peau et de devenir Primavera, un petit moi. Non pas tant pour t'apprécier encore plus, mais pour mieux comprendre ta légende. Et surtout, pour pouvoir, une nouvelle fois, réaliser fondamentalement combien l'impossible n'est que temporaire. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à l'équipe technique, à Carole Babin-Chevet, ma co-autrice des Uchronies, et à l'équipe de CQFD.io. Si vous voulez en savoir plus sur le monde de demain et les initiatives à l'œuvre ici et maintenant, rendez-vous sur le site des éclaireurs de Canal+. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et si vous voulez partager ce moment avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.